Voilà, le sujet bling-bling du moment, ce sont les diamants, forcément.
Eh ben oui, alors pourquoi? Pourquoi les diamants? Alors c'est vrai que, tu l'as dit, hein, parle sans arrêt de gigawatts pour l'IA,
Ah
et
oui.
c'est un problème. C'est même un gros problème en fait, parce que tous ces gigawatts de puissance, c'est du calcul, c'est vrai, mais c'est aussi de la chaleur. Et c'est une chaleur qu'il faut évacuer, et c'est de plus en plus difficile. Et cette chaleur, c'est aussi de l'énergie perdue. Le refroidissement des puces, c'est devenu un enjeu de plus en plus important, et même stratégique, parce qu'au mieux on refroidit, au plus vite on peut aller. Et en plus, il faut bien dire ce qui est, hein, les techniques de refroidissement n'ont pas beaucoup évolué en 40 ans. En gros, il y a trois solutions, hein. Soit on refroidit avec un radiateur, et puis là, vous avez deux solutions en fait. Soit vous mettez le radiateur directement sur la tête du CPU, hein, avec un gros ventilateur dessus. Mais alors, le radiateur, il ne peut pas être trop gros, parce qu'il est sur la tête du CPU, donc c'est un peu, voilà, il est un peu limité. Soit on utilise un liquide pour déplacer la chaleur du CPU plus loin, et du coup, on peut utiliser un radiateur plus gros. Et puis on peut aussi utiliser des ventilateurs plus gros qui du coup tournent moins vite et donc du coup sont aussi plus silencieux. Et ça c'est le water cooling à papa. Hein. Plus audacieux, on peut aussi plonger directement tous les composants dans un bain, dans un liquide isolant qui fait le boulot. Quand la puce chauffe, elle va créer une convection dans le liquide qui fait remonter naturellement la chaleur. C'est efficace et c'est rigolo parce que ça fait des petites bulles. Mais par contre c'est pas nouveau du tout hein, parce que certains ordinateurs Cray dans les années 80 fonctionnaient déjà comme ça. Après, c'est vrai que immerger dans un liquide son ordinateur, ça demande une certaine organisation hein, aussi pour accéder aux composants, etc. Et le souci, même avec cette solution, de toute façon, c'est que la chaleur extraite, elle est extraite relativement loin de là où la chaleur est générée. Parce que la chaleur, elle est générée dans les puces. Elle est générée par les transistors, par les connexions, par les petits câbles à échelle microscopique, quoi. À cette échelle, le radiateur qu'on met sur le package, il est à quoi ? 1 ou 2 mm. Ça veut dire qu'il est super loin, parce qu'à l'échelle de la puce, c'est très très loin, 1 ou 2 mm. L'idéal, ce serait de mettre un radiateur dans la puce, donc au plus proche des transistors. Tu mets à côté des transistors, le radiateur. Alors évidemment, ce radiateur, il devra être isolant, parce que sinon ça fout le why, hein, bien entendu. Et puis, il devra aussi conduire très bien la chaleur, comme tout bon radiateur qui se respecte. Alors, le truc, c'est que donc, il faut un truc qui est isolant, qui conduit très bien la chaleur, et ça, eh ben, il y a un truc qu'il fait, c'est le diamant. Et là, vous vous dites, ouf, oh là là, c'est beau. Ça va pas faire baisser le prix de la prochaine Xbox. Hein.
C'est clair,
si tu commences à foutre des diamants dans les puces, oh là là. Et c'est vrai que ça risque de se payer un petit peu, c'est vrai. Mais rassurez-vous quand même, hein, c'est des diamants de synthèse, évidemment, déjà.
Ah,
et puis, c'est même des diamants polycristallins.
D'accord.
Diamants de bijouterie, c'est énorme. Enfin, c'est plus ou moins des monocristallins. C'est-à-dire, enfin, en théorie, c'est un seul et énorme cristal qui est sur votre bague.
OK.
Là, il suffirait de générer des cristaux de diamants. Alors, des cristaux qui sont relativement gros, mais qui sont tout de même microscopiques, quoi, et donc on aura plusieurs cristaux, c'est pas grave, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à faire. On ferait en fait pousser directement les diamants au plus proche des composants de la puce. Faire pousser du diamant, c'est pas extrêmement difficile, parce qu'il suffit d'envoyer du carbone globalement, et selon les conditions de pression et de température, ça pousse.
Ok.
Alors, le diamant conduit super bien la chaleur, beaucoup beaucoup mieux que le cuivre. Le souci, c'est que créer du diamant de synthèse sur une puce à des températures qui ne crament pas la dite puce, ça, c'est pas facile. Parce qu'en général, on utilise des températures très hautes pour faire des diamants de synthèse. Mais bon, des chercheurs de Stanford se sont cassés la tête et ils commencent à y arriver. À des températures qui sont pas trop, trop, trop élevées. Qui sont quand même très élevées, hein, mais qui sont pas trop, trop élevées. Donc, ils ont commencé à faire des tests avec des composants simple, hein, ils ont fait pousser du diamant sur la surface d'un machin en gallium avec une toute petite interface de 2 ou 3 nanomètres. Et le diamant a diffusé la chaleur super bien. Ça a fait baisser la température de 50 degrés par rapport à un refroidissement classique. Le problème, c'est que les puces sont complexes. Les puces modernes, enfin les vrais CPU, les vrais GPU, c'est des puces qui sont très complexes, qui sont devenues des assemblages en 3D. Et ça, ça facilite pas les choses. Mais ils ont quand même des plans pour ça, c'est pas impossible non plus, et du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est des échafaudages, des petits échafaudages de diamants à travers les puces. Donc on fait pousser des piliers de diamants à travers les puces. Ces piliers vont finir par se réunir au-dessus de la puce pour former une couche qui va diffuser sur toute la surface la chaleur de l'intérieur qui est extraite par les piliers. Et donc du coup, tu peux faire ça sur plusieurs couches. Et donc tu peux avoir une diffusion de la chaleur en 3D. Alors pour l'instant, ils n'ont pas inclus ça dans des vraies puces commerciales, parce qu'évidemment, il faut inclure ça dans les processus de fabrication. C'est compliqué. Ils ont fabriqué une sorte de fausse puce, qui chauffe un peu comme une vraie, et ils ont fait leur échafaudage de diamants, et ils ont constaté que la température de l'ensemble était divisée par 10. Alors bon, évidemment, après, il faut faire ça dans un vrai CPU, ou un vrai GPU NVIDIA super compliqué, et là, tout de suite, c'est difficile.
Ah, c'est pas
pour
si
l'instant,
simple.
Ils travaillent avec la DARPA pour utiliser le processus avec un amplificateur haute puissance, un truc qui chauffe pas mal, hein, et donc il faudrait que ça chauffe le moins possible. Donc c'est un début, ça validera le process, et donc c'est une piste pour, c'est vrai que l'idée d'inclure au cœur même des transistors, vraiment à l'intérieur de la puce, directement un radiateur, qui serait en diamant, ça pourrait changer énormément de choses, et en plus c'est quand même assez cool.
Incroyable quand même, l'innovation la plus remarquable, la plus originale à laquelle on n'aurait pas pensé. Avec des diamants, vous avez compris, c'est pas les diamants qu'on va aller extraire dans les mines, bien évidemment. Le laser, Guillaume, je croyais savoir que ça réchauffait, ça chauffe, quoi. Et là, visiblement, c'est quoi? C'est l'inverse, on peut refroidir avec un laser, j'ai pas compris.
Et aussi, vous pensiez que refroidir les puces avec des diamants, c'était cool. Figurez-vous qu'il y a une manière encore plus cool encore de refroidir les puces avec des lasers. Et je sais que ça paraît délirant parce que c'est vrai que la lumière, en général, hein, quand t'éclaires un truc, ça le chauffe plutôt.
Bah oui.
Et puis en particulier, t'as des découpeurs laser qui montrent bien à quel point le laser, ça peut chauffer très 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 fort, effectivement. Mais il y a aussi un phénomène physique que tout le monde connaît, qui existe, hein, c'est la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est une matière qui est éclairée et elle émet elle-même de la lumière, mais pas la même. La fluorescence, c'est un truc qui est très très courant et qui, dans la quasi-totalité des cas, c'est que le matériau absorbe de la lumière très énergétique, enfin en tout cas plus énergétique que genre des ultraviolets par exemple, qu'on ne voit pas, et elle renvoie de la lumière moins énergétique, qu'on peut voir. Et il y a un différentiel, d'ailleurs, ce différentiel d'énergie, il chauffe l'objet, tout simplement. Donc oui, effectivement, on chauffe toujours, donc au final, ça reste intuitif, hein, il n'y a pas de problème. Mais il existe un type très très particulier de fluorescence. C'est une fluorescence qui fait exactement l'inverse. Donc on a une matière qui absorbe de la lumière pas très énergétique et qui émet de la lumière qui est plus énergétique. Ouais, mais alors attends, elle la prend où l'énergie qui lui manque? Elle la puise dans sa propre chaleur.
Ah.
Et donc elle refroidit.
Ah d'accord.
En fait, à l'intérieur de cette matière...
Ça semble assez contre-intuitif quand même, hein, comme ça.
La chaleur, en fait, c'est des vibrations. La chaleur, c'est des vibrations de la matière. Et ces vibrations, elles peuvent former des quasi-particules, qu'on appelle des plasmons. Et l'énergie de ces quasi-particules, l'énergie de ces plasmons, c'est comme si c'était des particules avec une certaine énergie qui pouvaient réagir avec d'autres particules et avec, tu vois, si on est dans les bonnes gammes d'énergie.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, ces plasmons, dont l'énergie peut être calibrée et doit être calibrée au quart de poil, peuvent combler ce trou énergétique qu'il faut. Donc, tout ça est très précis. Donc, si tu éclaires avec un laser, donc avec une longueur d'onde très précise, donc une énergie très précise, le matériau va briller et se refroidir. Parce qu'ils vont émettre des photons d'une certaine énergie qui est moins importante que l'énergie que tu apportes avec le laser. Et il y a des plasmons qui vont apporter l'énergie qui manque. Et ces plasmons, c'est des quantas de vibration, c'est des quantas de chaleur, en fait, puisque ça vibre moins, en fait, tu vois. Donc, c'est la température baisse. Donc, pour simplifier les idées, tu braques un laser bleu sur un truc, il brille en rouge et il refroidit.
C'est magique. C'est fou, ça.
C'est absolument magique. La physique, c'est magique, des fois.
Ouais,
ça s'appelle la fluorescence anti-Stokes et ça ouvre la voie à un refroidissement actif et ciblé. Ciblé par un laser, donc vraiment très bien ciblé, ultra précis et potentiellement assez intense. Alors, pour ce qui nous intéresse, c'est plutôt cool parce que les CPU, les GPU, tout ce que vous voulez, c'est non seulement des trucs qui chauffent énormément, mais qui chauffent de manière très très inhomogène, très très peu uniforme. C'est-à-dire, c'est les GPU, les CPU, ils ont des points chauds qui sont extrêmement chauds, et à côté, ça l'est beaucoup moins. Et puis ces points chauds, ils bougent en plus en fonction du boulot que tu fais, quoi. Et ces points chauds, d'ailleurs, sont tellement chauds qu'en général, il faut même éteindre temporairement d'autres parties de la puce pour pas que l'ensemble ne monte trop en température et crame.
Jamais imaginé, je pensais que ça chauffait tout le temps au même endroit, ok.
Pas du tout. Non, ça ne chauffe pas au même endroit. Et puis, il y a des points chauds vraiment particuliers sur les puces. Et de l'autre point de vue, la puce chauffe à sa surface et c'est tout, évidemment.
Du point de vue
macroscopique, voilà, tu as le truc qui chaud, tu touches, tu crames, c'est tout.
C'est chaud.
En réalité, il y a des milliers de points chauds qui clignotent en permanence. Okay. Et si on pouvait refroidir exactement où il faut ces points-là, on aurait non seulement une puce qui est contente d'être bien au frais déjà, mais on pourrait aussi maintenir plus de parties de la puce actives en même temps. Parce qu'on n'aurait pas besoin de couper des morceaux. L'objectif n'est pas facile, évidemment, mais donc ça vaut le coup. Donc on veut intégrer des sortes de patchs de refroidissement, encore là au plus près possible des transistors, hein, avec un système de senseurs qui va repérer les points chauds et qui va les éteindre au laser. Et là, non seulement on a des puces qui ne s'autodétruisent pas, c'est bien, mais qui peuvent aussi monter plus haut en fréquence et qui peuvent activer plus de transistors simultanément. mais qui en plus consomment moins d'énergie. Pourquoi ça ? Ben parce que c'est de la fluorescence. N'oublions pas, quand une puce normalement travaille, elle produit des calculs, elle produit aussi de la chaleur. Cette chaleur, elle est perdue. Cette chaleur n'est pas utilisable. Là, si on éteint cette chaleur, si on la convertit, cette chaleur, en fluorescence, en lumière, eh ben on peut utiliser la lumière avec des cellules photovoltaïques pour faire de l'électricité.
Ça paraît vraiment de l'ordre de la magie, quoi. Enfin, ça, encore une fois, hein, c'est une belle illustration.
Tu convertis la chaleur en lumière et la lumière en électricité. Et donc, tu récupères de l'énergie que tu aurais perdue en chaleur. Évidemment, il y a des pertes de tous les côtés, mais comme ça, on peut récupérer potentiellement 60% de l'énergie injectée. Alors, je demande à voir, mais enfin, même si c'est que 20 ou 30%, c'est déjà super. Hein. C'est déjà mieux que de la laisser juste s'échapper, quoi. Donc, concrètement, on va éclairer au laser via des fibres optiques qui seront placées sur une grille de patch qui, eux, ont cet effet de fluorescence, qui sera placée sur la puce. Et on a, pour l'instant, c'est une caméra thermique dans le démonstrateur. C'est une caméra thermique qui repère les points chauds et qui pilote le laser et qui envoie donc dans les fibres optiques sur les patchs qui donc diffusent quoi la chaleur, enfin la convertissent en lumière. Et d'ailleurs il y a des réflecteurs sous les patchs pour ne pas que la lumière émise par la fluorescence entre dans la puce, mais pour qu'elle s'échappe et qu'elle soit captée à terme par des cellules photovoltaïques. Oui, c'est compliqué.
J'allais le dire.
Il y a une démo qui existe et qui est assez grosse, évidemment, pour l'instant, avec la caméra, tout ça, qui fonctionne, mais bon, voilà, c'est un démonstrateur, quoi, qui nécessitera pas mal d'améliorations et de changements avant de pouvoir être intégré, mais éventuellement, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des refroidissements actifs au laser si tout ça peut être industrialisé, quoi.
Excellent. Écoute, c'est formidable. Et puis, en plus, on continue dans le rafraîchissage, le refroidissement plutôt. Avec des réfrigérateurs. Et non, cette fois-ci, on ne va pas parler des frigos Samsung qui intègrent désormais de la publicité, mais subtilement d'autres technologies, Guillaume.
Oui, vous le savez, je suis quelqu'un de plutôt froid, et donc c'est avec grand plaisir que je peux parler d'encore une nouveauté qui concerne la réfrigération cette semaine, qui est un petit peu le thème de la semaine. Alors, elle ne concerne pas strictement la tech dure, quoi, avec des puces et tout, les puces chaudes comme des baraques à frites, là, comme on vient d'en parler. Vous le savez sans doute, le principe du frigo et des climats, c'est le même depuis très longtemps. On compte sur le fait que quand une matière change de phase, elle perd ou gagne de l'énergie. Dans un frigo, le fluide se balade, il absorbe de l'énergie quand il se vaporise, et il la relargue quand il se condense. Il ne le fait pas de lui-même, évidemment, il faut le forcer, il faut le compresser, et il déplace donc de l'énergie, tout simplement, le fluide déplace de l'énergie d'un endroit à un autre, là où il prend l'énergie, ça refroidit, et puis à l'autre côté, ça chauffe. Ok, et pour ça, on utilisait des CFC à une époque. Hein. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça, mais on utilise quand même toujours des gaz qui sont vraiment pas géniaux, qui ont un effet de serre super, super puissant. Et puis, on voudrait pouvoir aussi peut-être explorer des solutions un peu plus efficaces. Et il y en a peut-être, et ce sont les liquides ionocalorifiques. Alors le principe, c'est pas très compliqué finalement, parce qu'on peut l'expérimenter facilement hein, quand on constate qu'on met du sel sur les routes en hiver. Quand on met du sel sur les routes en hiver, c'est pour forcer la glace à fondre. Le sel, c'est des ions calcium et sodium, et ces ions changent le point de fusion de l'eau, enfin de la glace. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, fait fondre la glace.
La glace étant de l'eau, mais bon.
Voilà. Le principe, c'est qu'on a un truc dans lequel on peut mettre ou retirer des ions à la demande, et ça va changer sa phase à une température donnée. Comme la glace, on met des ions, ça fond. Et si on retirait les ions, ça gèle. Ouais. C'est rigolo, mais en plus, du coup, ces changements de phase, ça va pomper ou relarguer de l'énergie selon le changement de phase. Donc au lieu de compresser, qu'on fait d'habitude, on utilise le champ électrique pour déplacer des ions et les mettre dans une matière ou les retirer d'une matière. Et le résultat, c'est que le point de fusion du fluide va changer. Il va changer de phase, absorber de l'énergie quand il passe de solide à liquide ou de liquide à gaz et en relarguer quand il fait l'inverse. On peut parfaitement concevoir des systèmes réfrigérants comme ça, qui utilisent des matériaux qui sont totalement différents, qui n'ont pas forcément de gaz à effet de serre, de l'enfer, hein, par exemple, et qui potentiellement utilisent aussi moins d'énergie. Ils ont constaté en laboratoire des déplacements thermiques de 25 degrés avec moins d'un volt de charge électrique. Énergétiquement, c'est mieux que ce qui se fait actuellement. Donc c'est un nouveau cycle thermodynamique qui est donc qui mérite d'être étudié. Avec évidemment quelles matières sont les plus économiques, les moins dangereuses, etc. Mais c'est hyper intéressant, je pense, de s'intéresser à un nouveau cycle thermodynamique que celui des HFC, quoi. Et puis, évidemment, après, on verra si économiquement c'est viable, parce que c'est toujours pareil. Hein. Quand une technologie est très, très, très bien implantée et qu'on l'est très, très bien maîtrisée et que du coup, elle n'est pas très chère, les nouvelles technologies doivent être vraiment super chaudes hein, pour pouvoir s'imposer. Mais bon, ça peut valoir vraiment le coup.
Tu m'étonnes. Ce sera mesuré, en tout cas.